une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent nos ruelles?
Billet d'Afrique de ce mois d'avril est inspiré de la revue mensuelle Décolonisons de l'ONG Survie et d'un article paru dans Le Monde concernant les élections au Congo-Brazzaville. Vous entendrez pour cette fois les voix de Marie et Alexandre.
Mirage fossile dans les Outre-mer. Relancer la recherche et l'exploitation de pétrole et de gaz dans les collectivités ultramarines, c'est ce que propose un projet de loi adopté par le Sénat pour remédier au sous-développement chronique de ces territoires, sans se soucier ni de leur environnement, ni de leur droit à décider par et pour eux-mêmes. Le 29 janvier, le Sénat a adopté une proposition de loi, PPL, portée par le groupe macroniste et soutenue par la droite dans son ensemble, visant à lever dans les territoires d'outre-mer l'interdiction de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures inscrite dans la loi dite Hulot de 2017. À l'époque, déjà, le Sénat avait tenté, lors de l'examen du texte, de soustraire à cette interdiction, toute relative, les Outre-mer, ainsi maintenus dans un très colonial statut de pourvoyeur d'énergie et de matières premières au profit de la métropole. Les sénateurs reviennent aujourd'hui à la charge dans une situation internationale nouvelle, marquée notamment par la guerre en Ukraine et la course aux énergies fossiles relancée par Trump et son sinistre slogan « Drill, baby, drill ». Fort, bébé, fort. Évoquant ce contexte, la Commission des affaires économiques du Sénat avait adopté ce texte écocide quelques jours avant son examen en séance plénière, en arguant que la loi Hulot n'a pas eu l'effet d'entraînement escompté sur les autres pays et qu'au contraire, plusieurs des concurrents de la France ont décidé de relancer exploration et exploitation pétrolière et gazière. Selon la Commission, la découverte de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux exploitables permettrait de contribuer à la souveraineté énergétique de la France et de générer des recettes qui participeraient utilement au développement des territoires ultramarins. Un boniment colonialiste éculé pour justifier un pillage des ressources censées donc autant profiter à la France qu'aux pays et peuples colonisés de ses outre-mer. Le principal instigateur de cette PPL, le sénateur macroniste de Guyane, Georges Patient, n'a ainsi pas hésité à invoquer le sous-développement et la pauvreté des territoires ultramarins, victimes, selon lui, non de leur dépendance coloniale, mais de la bonne conscience écologique de la France. Il a notamment fait miroiter le développement économique de ses voisins du Suriname, du Brésil et du Guyana. On passe de devenir un petit Qatar, dixit la tribune du 23 janvier, tous producteurs de pétrole. L'élu n'a cependant pas précisé que leur essor économique est ou sera loin de profiter aux populations de ces territoires en dehors d'une infime élite, les grands groupes pétroliers restant évidemment les seuls vrais gagnants de l'affaire. Les territoires d'outre-mer méritent mieux que le mirage fossile, ont réagi 11 ONG, dont Survie, dans un communiqué de presse commun le 28 janvier, qui rappelle que cette levée d'interdiction est évidemment incompatible avec l'urgence climatique et souligne que l'exploitation des hydrocarbures expose les territoires à des risques de déstabilisation économique sans garantie de redistribution locale, à une vulnérabilité politique accrue, corruption, phénomène d'accaparement, ainsi qu'à des dommages environnementaux irréversibles. Pour les organisations, cette PPL trahit une incapacité persistante des décideurs politiques à imaginer un autre modèle de développement pour les territoires ultramarins que celui de l'extraction héritée de l'histoire coloniale. Dans les territoires concernés, Mayotte Nature Environnement et Guyane Nature Environnement ont d'ores et déjà lancé une campagne pour dire non à l'abrogation de la loi Hulot, préserver les océans et demander l'égalité de traitement des Outre-mer. La PPL s'appuie sur l'existence de supposés gisements pétroliers au large de la Guyane et de possibles gisements gaziers dans les zones économiques exclusives de Mayotte et des îles Éparses. Des perspectives alléchantes, mais en réalité très hypothétiques. Si hypothétiques qu'à l'issue de précédentes campagnes d'exploration, le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanet, avait par exemple conclu « Il n'y a pas d'hydrocarbures accessibles en Guyane ». Le refus de l'industrie gazopétrolière de s'engager, du moins pour le moment, dans une aventure coûteuse et hasardeuse, a sans doute influencé la position du gouvernement Lecornu. Après moult hésitations, et seulement la veille de l'examen du texte, il a annoncé ne pas soutenir la PPL de ses propres élus sénatoriaux, pourtant également défendue par la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou. Il semble que le démantèlement de la loi Hulot, symbole du prétendu engagement écologique du premier mandat d'Emmanuel Macron, posait problème du côté de l'Élysée. Cependant, on le sait, quand l'intérêt économique est avéré, le président de la République n'est guère sensible aux conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques des activités extractives des multinationales tricolores en Afrique ou ailleurs. La droite ultralibérale n'est cependant pas la seule à demander la fin de l'application de la loi Hulot dans les Outre-mer. Ces deux députés guyanais, David Riman et Jean-Victor Castor, qui siègent à l'Assemblée nationale notamment avec les élus PCF au sein du groupe gauche démocrate et républicaine, la réclament également. Le 26 mars 2025, Jean-Victor Castor avait ainsi, lors des questions au gouvernement, listé les richesses possibles de son département, or, coltan, gaz, lithium, pétrole, kaolin, bauxite, et dénoncé une situation où, bien que la Guyane soit dotée de multiples ressources, la France condamne les Guyanais au sous-développement. Une position que plusieurs médias ont rappelée à l'occasion du débat sur la PPL, en oubliant toutefois une précision importante. Pour Jean-Victor Castor, militant indépendantiste, membre du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, le MDES, ce n'est pas la souveraineté énergétique de la France qui compte, mais bien la souveraineté économique de la Guyane. C'est ce qu'il indique dans une lettre ouverte au Premier ministre en date du 12 novembre, dans laquelle il écrit également « Il est temps d'accorder à la Guyane une autonomie large, lui permettant de décider de l'usage responsable de ses ressources. » France-Guyane, le 19 novembre 2025. Un rappel nécessaire, dans cette équation complexe, pour allier transition écologique et exigence sociale, c'est la volonté et l'intérêt des peuples ultramarins qui doit primer.
Mort d'un jeune déporté kanak. Le 6 février, Frédéric Groschin, 31 ans, a été retrouvé mort seul dans sa cellule du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, en Saône-et-Loire. Un décès qui intervient après plus d'un an et demi d'un isolement extrême pour ce jeune kanak, originaire de Punériwen en Nouvelle-Calédonie, qui faisait partie des dizaines de détenus déportés en métropole à la suite des révoltes du 31 mai 2024. Selon les chiffres du collectif Solidarité Kanaki, dont Survie fait partie, de juin 2024 à avril 2025, 69 détenus ont été transférés contre leur gré du camp Est, la sinistre prison de Nouméa, vers différents établissements de l'Hexagone. Des déportations dont le nombre a baissé, mais qui n'ont pas cessé depuis. Solidarité Kanaki suit aujourd'hui quelques 90 prisonniers ainsi déplacés de force. Selon les premiers éléments de l'enquête en cours, Frédéric Groschin était atteint de tuberculose. « Je n'arrive pas à comprendre comment on peut laisser quelqu'un agoniser dans une cellule jusqu'à son dernier souffle sans que personne ne réagisse », s'indigne son frère. L'administration pénitentiaire et le ministère de la Santé, dont dépend la prise en charge sanitaire des personnes détenues, se renvoient piteusement la responsabilité de ce drame. Dans un communiqué signé de son président, le FLNKS a salué la mémoire du jeune homme, soulignant qu'il est une victime directe du système judiciaire et carcéral colonial qui s'est durci de manière inédite depuis les événements de 2024. « Le droit d'asile sacrifié. Le 10 février, les élus de droite et d'extrême droite du Parlement européen ont uni leurs voix pour adopter une liste de pays tiers sûrs. Cette mesure vise officiellement à traiter, en réalité à rejeter, plus rapidement les demandes d'asile de ressortissants des pays figurant sur la liste. Bien sûr, ces derniers resteront théoriquement libres de prouver, à l'occasion de ces procédures accélérées, que cette sécurité présumée ne s'applique pas à leur situation. Mais en cas d'échec, les appels ne seront plus suspensifs. Les demandeurs pourront donc être expulsés alors que l'examen de leur demande n'est pas terminé. La liste des pays sûrs comprend notamment le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et les pays frontaliers de l'Europe qui demandent à adhérer à l'Union européenne. Le Maroc et la Tunisie, les gens y vont en vacances. En quoi ces pays seraient non sûrs à justifier ? Christophe Gomard, membre du Parti populaire européen, PPE, et accessoirement ancien responsable militaire français. Les députés Renaissance ont validé le principe intéressant de pays sûrs, mais se sont abstenus sur le contenu de la liste. Les ONG et les forces progressistes ont contesté à la fois le principe qui vise à faire disparaître l'examen approfondi des situations individuelles, et le choix des pays. L'accent a été particulièrement mis sur le cas de la Tunisie en raison de la dérive dictatoriale et paranoïaque du président Kais Saïd depuis 2021. Mais la brutalité du régime militaire du maréchal Al-Sissi, avec son nombre record de prisonniers politiques, ne vaut évidemment pas mieux. Quant à la monarchie marocaine, les familles des manifestants blessés ou tués par balles lors des mobilisations de la Gen Z il y a quelques mois apprécieront. Les nouveaux principes régissant le droit d'asile ne visent pas à refouler uniquement les personnes originaires de ces pays. Toutes les personnes menacées sont concernées si elles y ont transité sans y demander l'asile et s'il existe un accord national ou européen d'admission avec l'un de ces pays. En clair, il s'agit, sur le modèle déjà expérimenté par l'Italie, de pouvoir externaliser aux frontières de l'Europe les demandes d'asile, mais aussi de renvoyer dans n'importe quel pays sûr celles et ceux qui seront refoulés depuis l'Europe. Les exilés seront bien sûr accueillis avec davantage encore d'humanité dans des centres spécialisés conçus à cet effet, dans des pays qu'ils ne connaissent pas, sans lien ni protection. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Déjà mal en point, l'article 14 de la Déclaration universelle des droits humains est en train d'être achevé sur l'autel électoral des fantasmes migratoires et des obsessions racistes d'une classe politique de plus en plus satellisée par les fascistes. À moins d'un sursaut urgent, il n'en va pas que de la nécessaire solidarité avec les exilés. On le sait, le sacrifice des droits des étrangers prélude au reniement des droits de toutes et tous. Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été réélu avec 94,82% des voix, selon des résultats annoncés par la télévision nationale. Denis Sassou Nguesso se dirige vers un cinquième mandat, prolongeant un règne de plus de 40 ans sur le Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, 82 ans, dirige d'une main de fer ce petit pays d'Afrique centrale, riche en hydrocarbures, et cela depuis plus de 40 ans cumulés. Sa réélection le maintient au pouvoir jusqu'en 2031. Est élu Denis Sassou Nguesso, 2,507,038 voix, soit 94,82% des suffrages exprimés, a déclaré à la télévision nationale le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou. Le taux de participation s'élève à 84,65%. 5%, a-t-il ajouté. Une faible affluence dans les bureaux de vote avait toutefois été constatée par les journalistes de l'agence France Presse présents à Brazzaville le jour du vote. Ces résultats provisoires devaient être validés par la Cour constitutionnelle du pays. Le réseau Internet a été coupé dans tout le pays le matin du vote. La circulation des véhicules était interdite dimanche et les commerces fermés sur ordre des autorités. Des véhicules de l'armée et la police avaient arpenté toute la journée les allées vides du centre-ville où de rares piétons déambulaient sous un ciel plombé. Des gendarmes et policiers étaient déployés en nombre devant les bureaux de vote. Près de 3 millions d'électeurs inscrits étaient appelés aux urnes, selon les autorités, mais l'AFP n'a pas été en mesure de déterminer l'affluence à travers le pays en raison de la coupure du réseau. Internet avait déjà été coupé plusieurs jours lors des présidentielles de 2021, qui avaient vu la réélection de M. Sassou Nguesso avec 88,40% des suffrages, selon la Cour constitutionnelle. L'opposition conteste systématiquement les scrutins remportés par M. Sassou Nguesso depuis 2002. 6 candidats, peu connus ou sans réelle assise politique, se présentaient dimanche face au président sortant. Les principaux partis d'opposition ont boycotté le scrutin, n'estimant pas remplies les conditions d'une élection libre et transparente. Deux figures de la présidentielle de 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, sont encore aujourd'hui détenus après avoir été condamnés à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure en 2018 et 2019. La Constitution empêche en principe M. Sassou Nguesso de se représenter pour un nouveau mandat en 2031, soulevant l'inévitable question de sa succession. Il a affirmé à l'AFP qu'il ne resterait pas une éternité au pouvoir et que le tour des jeunes viendra, tout en refusant de se prononcer, sur un éventuel successeur.
Kanaky, Nouvelle-Calédonie, l'État macroniste n'en finit plus de coloniser. Le gouvernement entend faire très vite pour appliquer le pseudo-accord de Bougival et son complément, l'accord Élysée-Oudinot, conclu en janvier, une fois encore, sans le FLNKS. Un pari incertain d'un point de vue parlementaire qui ne peut qu'enfoncer davantage la Kanaky, Nouvelle-Calédonie dans la crise. On ne pourra pas reprocher à l'État macroniste un manque de constance. En Kanaky Nouvelle-Calédonie, KNC, le président de la République et sa clique auront œuvré assidûment au sabotage du processus de décolonisation, puis à la perpétuation de la mainmise de la France sur l'archipel, quitte à mettre fin sur place à 36 années d'une paix fragile. Une contre-offensive coloniale interrompue un temps par l'insurrection indépendantiste du 13 mai 2024 est réprimée dans le sang, mais qu'Emmanuel Macron n'a pas tardé à reprendre avec la même irresponsabilité. Le premier acte s'est joué, on s'en souvient, à Bougival, dans les Yvelines, où le chef de l'État convoque début juillet 2025 les principales composantes politiques calédoniennes. Un piège parfaitement exécuté. Après 10 jours de discussions harassantes à huis clos, un accord est annoncé en grande pompe avec réception à l'Élysée et tir de barrage médiatique entre l'État et les différentes délégations. Celle du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, FLNKS, amenée par le député Emmanuel Tibaou, aura beau répéter par la suite n'avoir signé qu'un projet d'accord destiné à être soumis à leur base avant toute conclusion définitive, une version confirmée par le ministre des Outre-mer d'alors, Manuel Valls, après son éviction du gouvernement, le mal était fait. Derrière la création d'un État de Nouvelle-Calédonie, excite la Kanaky, tout ce qu'il y a de plus fantoche, le pseudo-accord Cadenas en réalité solidement l'accès à la pleine souveraineté du territoire. Celui-ci pourrait certes réclamer une à une les compétences régaliennes, défense, justice, sécurité et ordre public, monnaie, pour construire une indépendance en kit, mais il lui faudrait, pour ce faire, une majorité qualifiée des 3/5 des membres du Congrès, le Parlement local. Quasi impossible, d'autant plus que Bougival prévoit également un dégel du corps électoral, forcément défavorable aux indépendantistes, et une plus grande représentation au Congrès de la province sud, bastion loyaliste. Et si par miracle, l'obstacle venait à être surmonté, l'État français se garde encore le droit d'opposer son veto au transfert de la compétence concernée. À cela s'ajoute un renforcement des pouvoirs des provinces, préalable évident à une possible partition du territoire, une option maintes fois évoquée par les anti-indépendantistes en cas d'indépendance. Le 9 août 2025, le FLNKS officialise sans surprise son opposition au texte, sans que l'exécutif ne change ses plans. Après quelques mois d'atermoiement, dû essentiellement à l'instabilité gouvernementale française, Macron lance l'acte 2 en convoquant un nouveau round de discussion à Paris mi-janvier. Le FLNKS refuse logiquement d'y participer. Les conditions politiques et institutionnelles nécessaires à un échange sincère, équilibré et respectueux, conforme aux exigences d'un processus de décolonisation, ne sont pas réunies à ce stade, indique le 13 janvier, dans une lettre au président de la République, le président du Front, Christian Tin. Le 19 janvier est annoncé un nouvel accord unanime, selon la formule hallucinée du président de la République, oubliant commodément que le FLNKS reste à ce jour le seul représentant du peuple kanak reconnu au niveau international. Cet accord Élysée-Oudinot, la rue Oudinot à Paris accueillant le ministère des Outre-mer, est en fait un double accord qui vient compléter celui de Bougival, l'un sur le volet institutionnel, qui n'apporte pas grand-chose sur le fond, l'autre sur le volet économique. Ce dernier était le plus attendu et a d'ailleurs été le plus commenté dans les médias par les différents signataires, le KNC se trouvant dans une situation économique et sociale dramatique. Une crise qui découle directement de la crise politique de 2024 dont l'État est sans conteste le premier responsable et qui constitue aujourd'hui pour lui une aubaine qu'il entend bien ne pas laisser passer. Il dispose ainsi d'un exceptionnel moyen de pression, pour ne pas dire de chantage, le gouvernement conditionnant tout plan de secours et territoire exsangue à la conclusion d'un accord politique. Dont acte. Sauvetage des comptes sociaux, comme des retraites, la santé ou encore l'énergie, qui seront financés par la France pour l'année 2026. Octroi d'une enveloppe supplémentaire de 150 millions d'euros à destination des collectivités et de 446 millions d'euros pour la filière nickel, en grande difficulté, mise en place d'un plan d'effacement progressif de la dette colossale du territoire que l'État a en fait largement contribué à creuser, notamment pendant la pandémie du Covid-19. Avec ce second accord, l'exécutif et ses alliés entendent bien construire la diabolisation et, espère-t-il, la marginalisation d'un FLNKS présenté sans cesse comme plus radical que le FLNKS historique. Un script d'autant plus facile à dérouler que deux composantes du Front, l'Union progressiste en Mélanésie, UPM, et surtout le Parti de libération kanak, Palika, ont signé et soutiennent sans réserve l'accord de Bougival et son complément. Les deux partis, associés de longue date au sein de l'Union nationale pour l'indépendance, UNI, se retrouvent ainsi à défendre le processus en cours aux côtés des forces anti-indépendantistes, y compris les plus extrêmes. Très critique de la ligne combative portée par l'Union calédonienne, UC, l'autre grand parti indépendantiste est incarné par la cellule de coordination des actions de terrain, CCAT, le Palika n'a cessé de s'éloigner du FLNKS tout au long de la mobilisation contre le dégel du corps électoral de 2024. Un mouvement qui s'est amplifié après les révoltes du 13 mai. En novembre 2024, le parti annonce sa mise en retrait de la coalition indépendantiste avant d'officialiser son retrait définitif lors de son 50e congrès le 8 novembre dernier. Cependant, il semble de plus en plus criant que la ligne pro-Bougival défendue par l'équipe dirigeante du Palika est très loin de faire l'unanimité parmi les militants et les militantes. Des membres de plusieurs comités régionaux du parti, Poneri Wen, Uvea ou encore Lifou, ont participé le 6 décembre au congrès extraordinaire du FLNKS, affirmant clairement leur rupture avec les orientations de leur mouvement et un désir intact d'appartenir au front. Et le 7 février, des militants dissidents de l'UNI ont annoncé la naissance de l'association Unité du Peuple en Kanaky, UPK, appelant à neutraliser l'accord de Bougival. Plus étonnant, Paul Néaoutiyine, longtemps figure incontournable du Palika et du mouvement indépendantiste dans son ensemble, est sorti de son habituelle réserve pour critiquer le processus en cours. Le 30 janvier, à l'occasion d'un débat à l'Assemblée de la province Nord dont il est le président, le vieux leader a notamment assuré qu'il n'y avait pas beaucoup de continuité entre l'accord de Nouméa, dont il était l'un des signataires, et celui de Bougival. Une opposition qu'il a réaffirmée le 23 février dans un communiqué affirmant « Ce n'est pas dans l'optique d'une partition ou d'une ségrégation que je conçois l'avenir du pays. Le vivre ensemble de tous nos concitoyens et notre souveraineté dans un destin commun décolonisé. » Il n'est donc pas sûr que le FLNKS sorte réellement affaibli de ce divorce. Surtout que la coalition, longtemps cantonnée à quatre partis politiques, accueille désormais sept formations, ce qui est susceptible de lui donner une meilleure assise dans le monde kanak, aux côtés de l'UC et du Rassemblement démocratique océanien se tiennent désormais le Parti travailliste, le Mouvement océanien indépendantiste, Dynamique unitaire sud, Dynamique autochtone et un petit syndicat, la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique. En réalité, seule la tenue de nouvelles élections provinciales qui déterminent la composition non seulement des assemblées de province, mais aussi du Congrès, le Parlement local, permettrait de déterminer où en sont exactement les rapports de force politiques aujourd'hui en KNC. Sauf que les dernières provinciales se sont tenues le 12 mai 2019. Prévu pour mai 2024, le nouveau scrutin a été repoussé à trois reprises. Une première fois pour laisser le temps au gouvernement de laisser passer en force sa réforme du corps électoral calédonien, puis une seconde fois après les révoltes du 13 mai pour favoriser la reprise du dialogue. L'accord de Bougival signé, l'État préfère attendre que celui-ci soit appliqué avant de convoquer les électeurs ? Qu'à cela ne tienne, Assemblée nationale et Sénat votent fin octobre un nouveau report, contre l'avis du FLNKS bien sûr, et avec les voix d'un parti socialiste qui se satisfait d'une vague reformulation du texte de loi. Ce nouveau délai est justifié, contre toute évidence, par la nécessité de poursuivre la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Les provinciales sont maintenant censées se tenir d'ici le 28 juin 2026, soit avec plus de 2 ans de retard. Mais, remous de la vie politique française oblige, ce nouveau délai ne suffit pas pour le gouvernement. La dernière ligne de l'accord Élysée-Oudinot indique donc que les élections provinciales se tiendront finalement avant le 31 décembre 2026. En validant le précédent renvoi, le Conseil constitutionnel avait pourtant prévenu la durée totale de ce report ne saurait être étendue au-delà. Pas de souci, le gouvernement entend intégrer ce quatrième ajournement de suite à son nouveau projet de loi constitutionnelle, mettant ainsi les sages devant le fait accompli. En démocratie, les élections se tiennent à l'heure, avait martelé en octobre 2021 un Sébastien Lecornu, alors ministre des Outre-mer, pour justifier le maintien de la date de la dernière consultation d'autodétermination dans une Nouvelle-Calédonie en pleine pandémie de Covid-19, et ce, malgré l'opposition de l'ensemble des forces indépendantistes. De fait, nous assistons là à un ahurissant déni de démocratie. Mais comment s'attendre à autre chose dans un territoire colonisé ? Après le succès des indépendantistes aux législatives de 2024 et face au risque d'un recul électoral voir d'un revers aussi bien des indépendantistes pro-Bougival que de ses alliés loyalistes les plus extrêmes, l'exécutif macroniste semble frileux à l'idée de rappeler aux urnes les électeurs et électrices calédoniennes. Pour lui, on le constate, l'objectif prioritaire n'a pas bougé depuis 2024. En finir, avant toute chose, avec le corps électoral restreint, mesure clé du processus de décolonisation de l'archipel. Comme d'habitude, lorsqu'il cherche à passer en force, l'État entend faire vite. Le projet de loi constitutionnelle Bougival doit être examiné par le Sénat et l'Assemblée nationale, puis adopté par les deux chambres réunies en congrès d'ici avril, avant d'être soumis à l'approbation des Calédoniens ou des Calédoniennes lors d'une consultation en juin ou juillet. Une loi organique présentée en mai et examinée à l'automne le compléterait. Imposer une cadence effrénée afin de prendre ses adversaires de court, on connaît la méthode. Elle avait échoué in extremis en 2024. Qu'en sera-t-il cette année ? Face à cet énième passage en force, le FLNKS relance ses appels à une mobilisation de terrain pacifique, précise-t-il, qui semble une fois encore inévitable. Le 14 février, un premier rassemblement a réuni un millier de personnes devant le Haut Commissariat, l'équivalent de la préfecture, à Nouméa. D'autres se sont tenus sur tout le territoire de la Grande Terre et des îles les 13 et 14 février. Un démarrage en douceur, mais qui n'est pas sans rappeler les débuts des mobilisations de 2024, nous confie un membre du bureau politique du FLNKS. Mais le front entend aussi peser dans les débats en métropole même. Du 10 au 18 février, une délégation amenée par Christian Tin et Emmanuel Tibaou était en visite à Paris pour que les décisions ne soient pas prises en France sans faire entendre notre voix et pour alerter l'opinion française. Communiqué du bureau politique du 13 février. Celle-ci a multiplié les rencontres avec les acteurs de la vie politique française et notamment l'ensemble des groupes parlementaires. Un travail qui porte ses fruits, semble-t-il. Dans une tribune publiée par Le Monde le 17 février, 7 parlementaires du Parti Socialiste, dont Olivier Faure, font savoir que leur mouvement ne soutiendra pas un projet de loi constitutionnelle lourd de menaces et de dangers. De quoi hypothéquer très fortement ses chances d'aboutir. Le 18 février, lors d'une conférence de presse de la délégation FLNKS, Emmanuel Tibaou s'interrogeait logiquement à propos du maintien par le gouvernement de ce projet de loi, pourtant passablement mal embarqué. Pourquoi perdre tout ce temps ? Et le député de redire la volonté du FLNKS de redonner un souffle démocratique à tout ça, en organisant au plus vite les provinciales. Sauf victoire incontestable de ses partisans, celle-ci rendrait de fait l'accord de Bougival caduc. Comment imaginer, en effet, un instant que les représentants calédoniens fraîchement désignés n'aient pas leur mot à dire sur l'avenir de la KNC ? Si la reprise des discussions est souhaitable, et même obligatoire, encore faudra-t-il qu'elle se fasse dans un cadre qui ne mette pas sur un pied d'égalité une extrême droite calédonienne ouvertement raciste et coloniale et un peuple kanak engagé dans une lutte pour son indépendance, lutte tout à la fois légitime et reconnue par un droit international qu'il convient plus que jamais de défendre. Il faudra pour cela contraindre l'État français à ouvrir les seules négociations à même de sortir le KNC de l'impasse, celles qui permettront de réfléchir aux modalités concrètes de la décolonisation du territoire, c'est-à-dire son accès à la pleine souveraineté.
Vers une relance de Mozambique LNG. Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, et le président mozambicain Daniel Chapo ont annoncé le 29 janvier sur le site de production de gaz naturel liquide d'Afungi la complète reprise du méga-projet Mozambique LNG, dont la multinationale française est l'opérateur et l'actionnaire principal. Ce projet, qualifié par les ONG de « bombe écologique », avait été suspendu en 2021 suite à des attaques djihadistes. Protégé depuis par l'armée rwandaise appelée à la rescousse, la région reste néanmoins soumise à des attaques, ce qui a poussé les gouvernements britanniques et néerlandais à annuler en décembre leur financement de 2,2 milliards de dollars. En remplacement, Total et ses partenaires ont décidé d'apporter des fonds propres supplémentaires. À ces difficultés financières s'ajoutent des difficultés judiciaires, Total étant visé par 2 plaintes. Mais pour la multinationale, hors de question de remettre en cause son projet, le plus grand investissement privé dans des infrastructures énergétiques en Afrique. L'enjeu est trop important. La zone offshore est estimée être la 9e réserve mondiale de gaz. Le retard pris du fait de la suspension aurait déjà entraîné, selon Pouyanné, un surcoût de 4,5 milliards de dollars qu'il n'hésite pas à réclamer au Mozambique, ainsi qu'une extension de 10 ans de la concession. L'évaluation des coûts est toujours en cours, selon Daniel Chapeau, qui n'en a pas moins approuvé la relance du projet, rêvant de faire de son pays le Qatar africain. Coopération militaire, une privatisation en cours. Un récent décret prévoit la création d'opérateurs de référence du ministère des Armées, auxquels seront déléguées certaines missions à l'étranger. Passé totalement inaperçu dans la presse nationale, seul Philippe Chaplot, journaliste spécialisé défense de Ouest-France, en a fait la mention le 7 novembre. Un décret du Premier ministre, en date du 31 octobre 2025, mérite pourtant d'être signalé. Il crée en effet une labellisation pour des opérateurs de référence du ministère des Armées afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale militaire. C'est dans l'article 1. En clair, on officialise et on renforce la privatisation de certaines missions de coopération militaire à l'étranger au profit de sociétés privées, désormais agréées, est capable de seconder ou de se substituer aux forces dans certaines missions identifiées. Celles-ci pourront même être habilitées par le ministère des Armées pour les besoins de leur mission à exploiter des documents classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale. C'est dans l'article 3. Avec ou sans participation au combat ? Les entreprises retenues pourront être sollicitées dans 3 types de situations. De crise ou de conflit armé, d'un partenariat militaire opérationnel ou d'une opération d'exportation d'équipements de défense. Article 2. La participation à des opérations de combat, prérogative régalienne, n'est pas mentionnée. Et la loi française de 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaires interdit en principe de recruter pour participer à un conflit armé opposant des États étrangers. Sauf que la définition officielle du partenariat militaire opérationnel inclut le partenariat de combat qui prolonge la coopération opérationnelle par un engagement conjoint en opération. Doctrine interarmée DIA 3-16B du 11 mai 2022, comme ce que pratiquait par exemple l'opération Barkhane au Sahel. Sa sous-traitance sera-t-elle du coup interdite en conflit interétatique, mais autorisée en contre-insurrection contre un ennemi intérieur ? Énigme. Cette reconnaissance d'opérateur de référence répond en tout cas à une demande des entreprises de services de sécurité et de défense, ESSD, en grande partie constituée d'anciens militaires français. L'officialisation et le développement de partenariats publics-privés en matière de coopération militaire constituent en effet un soutien de l'État pour leur permettre de se développer sur le marché mondial en expansion de la sécurité privée, où elles espèrent rattraper leur retard sur les sociétés militaires privées anglo-saxonnes. Cette évolution était également réclamée par certains militaires pour permettre à la France de continuer à exercer sa puissance dans un contexte d'instabilité internationale et d'évolution des formes de conflictualité, voire pour renouer avec un esprit corsaire. Enfin, en Afrique, la sous-traitance de certaines missions pourra permettre à l'armée française de poursuivre dans la voie d'une empreinte légère et donc d'une relative discrétion. Texte de Raphaël Granvaux. Thalès, un marchand de mort made in France. Construisons ensemble un avenir de confiance. Cette devise est celle de l'entreprise Thalès, présentée comme un champion du progrès technologique au service de la sécurité et de la souveraineté des États. En réalité, l'un des plus importants maillons de l'industrie de l'armement de la France et de son empire qui ne veut pas mourir. Crimes de guerre au Sahel, au Soudan ou au Yémen, colonisation génocidaire israélienne, militarisation des frontières. En indexant son chiffre d'affaires sur les atrocités de masse auxquelles la France et ses alliés participent ou qu'ils facilitent, l'avenir vendu par Thalès n'est autre qu'un fantasme néocolonial, fasciste et mortifère. Incarnation de cette tradition impérialiste française criminelle, Thalès a été désigné cette année par la coalition Guerre à la guerre, dont Survie fait partie, comme la cible d'une grande campagne d'action. Pour aider à agir contre cet acteur incontournable du complexe militaro-industriel, la coalition met à disposition des outils militants, notamment une cartographie interactive de toutes les implantations de Thalès sur le territoire hexagonal. Dopé par la marche impériale forcée vers la guerre, le groupe vient d'annoncer le recrutement de 9000 personnes dans le monde, dont 3300 en France, en 2026. Thalès, porteur d'apartheid et de génocide. Acteur majeur des secteurs de la défense, de l'aéronautique et des hautes technologies, Thalès joue un rôle clé dans l'élaboration de solutions pour faire face aux défis sociétaux et environnementaux, indique le site internet du groupe. Celui-ci considère-t-il le peuple palestinien comme un défi ou une crise ? À Gaza comme en Cisjordanie, ni la colonisation, ni l'apartheid, ni le génocide ne constituent des freins à la collaboration de Thalès et donc de l'État français actionnaire majoritaire, juste devant Dassault Aviation, dont l'État possède aussi des parts avec Israël. Thalès fournit en effet des composants électroniques indispensables aux drones israéliens Elbit Systems et Israel Aerospace Industries, utilisés pour surveiller, terroriser et bombarder les Palestiniens. Malgré l'opacité et les montages de sous-traitance qui caractérisent le complexe militaro-industriel, sa place centrale et délibérée dans la chaîne de production de la violence génocidaire et coloniale israélienne se dévoile grâce à des initiatives citoyennes et militantes, à l'instar de l'ingénieux travail du collectif Stop Arming Israel France. Une complicité industrielle qui fait écho à un précédent soutien à une politique meurtrière d'apartheid. Tout au long des années 70 et 80, l'ancêtre de Thalès, Thomson CSF, a approvisionné les gouvernements racistes d'Afrique du Sud en technologie de pointe, en violation totale des embargos internationaux de l'époque. Ce sont ces informations qu'allait mettre au jour Dulcie September, militante de l'African National Congress, ANC, et représentante du mouvement anti-apartheid en France lorsqu'elle fut assassinée le 29 mars 1988 à Paris. Ses recherches sur ces trafics d'armes, qui suivaient notamment la piste d'un missile atomique français, dessinaient un réseau de complicité remontant au plus haut sommet de l'État jusqu'à la présidence française même. Cet assassinat n'a jamais été élucidé. Les récidives de Thalès révèlent ainsi une impunité totale, le complexe militaro-industriel étant prêt à tout pour préserver ses marchés, quitte à vendre les technologies les plus sophistiquées aux régimes les plus criminels. L'obsolescence programmée de la distinction entre sécurité et défense a désigné de nouveaux ennemis de l'intérieur, créant ainsi de nouveaux champs de bataille et de nouvelles opportunités lucratives. Thalès l'a bien compris. La panique raciste d'une submersion migratoire en Europe a fait exploser le budget de Frontex, l'agence de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures de l'Union européenne. Il est passé de 6 millions d'euros lors de sa création en 2005 à 922 millions en 2024, soit une multiplication par 150. Thales y réalise un lobbying insistant pour assurer son statut de fournisseur privilégié. Outre sa participation à des projets de recherche européens financés par l'argent public sur la sécurité des frontières, l'entreprise est l'un des principaux architectes de la militarisation des dites frontières et donc de la transformation des mers et pays limitrophes en cimetières et prisons à ciel ouvert. Selon le projet de migrants disparus de l'Office international des migrations, 33 441 personnes sont mortes en Méditerranée entre 2014 et ce début d'année 2026. Loin de construire un avenir de confiance pour celles et ceux en quête de meilleures conditions de vie, les systèmes de radar et des capteurs de Thales embarqués par les navires et les drones sont utilisés pour les repousser, les intercepter ou les laisser mourir. L'entreprise fournit également les systèmes de sécurité du port de Calais, l'un des espaces les plus militarisés d'Europe de l'Ouest. L'externalisation néocoloniale du contrôle migratoire se déploie dans les pays africains via Frontex, qui envoie des officiers de liaison et y développe des réseaux de renseignement et d'analyse. Thales est aussi actionnaire de Civipol, la société française de coopération entre le ministère de l'Intérieur et des industriels de l'armement et organisatrice du fameux salon du Bourget, qui a conseillé la Commission européenne en la matière. Tout comme l'Agence française de développement sur le plan juridique, Civipol a dispensé des formations en matière de sécurité pour lutter contre l'immigration auprès des services nigériens de police, gendarmerie, renseignement et douane. Elle propose aujourd'hui des formations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, largement utilisé pour renforcer les contrôles aux frontières en Mauritanie, au Sénégal, au Maroc, en Tunisie. En amont des frontières physiques, le groupe participe au développement d'Eurosur, système de surveillance mis en place par l'Union européenne, visant à contrôler et ficher les migrants avant leur arrivée en Europe. Et ce, via des applications pour smartphones, des bases de données interconnectées et des technologies expérimentales comme les pseudolithes, à haute altitude, ballons, drones ou dirigeables stationnant au-dessus de l'espace aérien commercial, développé par l'Agence spatiale européenne. Thales a notamment été propulsé dans le champ de l'identification biométrique par l'acquisition en 2019 de la multinationale spécialisée Gemalto, accessoirement visée par une vaste enquête judiciaire pour corruption, principalement pour des marchés gouvernementaux, carte d'identité, carte électorale, plaque d'immatriculation, remportée de manière suspecte entre 2015 et 2019 en Afrique. Malgré les dénégations, ce rachat en fait l'un des principaux collaborateurs de la politique raciste et fascisante de l'immigration Custom Enforcement, la tristement fameuse ICE, aux États-Unis. Son logiciel IDENT est utilisé pour enregistrer les données biométriques des personnes rencontrées et ou arrêtés dans le cadre d'enquêtes d'arrestation, de mise en détention et ou d'expulsion des États-Unis. Thales est donc un pilier essentiel de la guerre menée par les États contre les exilés, dont les moyens vont être normalisés dans le cadre de la surveillance et de la répression des voix militantes et dissidentes, rhétorique antiterroriste, à l'appui. Thales, profiteur de la violence impérialiste. Les systèmes de télécommunications sécurisés de Thales assurent l'interopérabilité des équipements de nombreuses armées à travers le monde. Le groupe s'enrichit sur la mise en danger des peuples. Ces systèmes de ciblage ont notamment été utilisés par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, impliqués dans les crimes de guerre au Yémen et au Soudan. Ces armes accompagnent aussi l'armée française lors des opérations et missions extérieures, comme ce fut le cas pendant la décennie de guerre contre le terrorisme menée au Sahel, qui a nourri l'instabilité régionale et la violence contre les civils. Cette opération Barkhane aura été un formidable laboratoire et une vitrine pour les technologies du groupe. En plus des drones Spy Ranger testés au Mali, sur fond de crimes de guerre commis et niés par la France, Thales fournit 25% des équipements des avions Rafale de Dassault. Radar, capteurs électro-optiques, équipements de communication, navigation et identification. longtemps invendables. Ces derniers ont trouvé les premiers d'une longue liste de clients, notamment le sanglant régime d'Al-Sisi en Égypte. Après avoir été estampillés, éprouvés au combat sur le dos des populations sahéliennes. Après avoir passé pour la première fois le cap des 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, Thales annonce en mars 2025 vouloir réorganiser ses capacités de soutien à l'armée de terre pour se préparer aux conflits de haute intensité. La guerre est d'autant plus rentable que celle en Ukraine a libéré les discours « va-t'en guerre » des politiciens européens, toutes tendances confondues, prompte à faire du réarmement des empires déjà militarisés, la dernière bouée de sauvetage de leur système capitaliste et colonial à bout de souffle. Texte de Camille Le Zaffre.